Alors bonsoir, bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Je suis Stéphane Melchior, je suis scénariste, je fais du dessin animé et de la bande dessinée. Le cours de ce soir, je vais essayer de le rendre à la fois simple et vivant. N'hésitez surtout pas à m'interrompre, me poser des questions. Finalement, si ça répond à des attentes particulières, soit professionnelles, soit simplement la curiosité. Ce n'est pas un exercice formel. Moi, je ne vais pas vraiment préparer les choses. Je vais vous raconter les choses comme je les ressens, un peu comment je travaille, l'exercice particulier. Qui n'est pas juste le scénario, ce sera un cours quand même, un cours de scénario, mais c'est un exercice particulier. Ce n'est pas l'invention d'une histoire. C'est l'adaptation. Donc l'histoire, elle est déjà préexistante sous la forme du roman. Et donc, il s'agit d'un autre exercice. Vous êtes familier peut-être en tant que lecteur, peut-être même s'il y a déjà des professionnels du scénario parmi vous. Mais c'est un exercice particulier, celui de la transposition pour la bande dessinée d'une forme littéraire. Voilà. Alors, bien sûr, nous sommes au Festival des Utopiales. Et le festival est vraiment tourné vers la science-fiction, vers le merveilleux aussi un peu, vers le fantastique. Il se trouve que, comme vous le voyez, vous me dites hein, si, parce que je ne contrôle pas très bien si jamais ça cafouille, là, vous me faites signe. J'ai fait, en tout cas dans le domaine de la bande dessinée, cet exercice au moins trois fois avec un certain succès, des exercices très différents. À cause des sujets dont je m'emparais, et donc je pensais intéressant d'élargir, pas uniquement au merveilleux, au Royaume du Nord, le magnifique roman de Pullman, mais peut-être d'ouvrir un peu à l'exercice en général et parler de l'adaptation aussi que j'avais faite pour Gatsby Magnifique, et aussi d'une adaptation en cours. C'est ça que je me suis dit, c'est peut-être intéressant aussi de leur montrer le travail en cours, qui est l'adaptation du premier roman d'Herman Melville, l'auteur de Moby Dick. Ça s'appelle Taipi. C'est un roman d'aventure assez particulier. Et donc, je pense que ça apporte des éclairages différents et complémentaires sur l'exercice de l'adaptation. D'accord ? Voilà. Voilà la thématique générale. Je vais me présenter rapidement. Voilà. Je vous en prie. J'ai 50 ans. Je suis né à Rennes. J'ai fait du droit. J'ai fait ensuite de la science politique à Paris. J'étais bien emmerdé après, parce que je ne savais pas trop quoi en faire. Et j'avais fait tout ça un peu par obéissance. J'étais un bon fils. Et puis je me suis posé la question, une fois ces diplômes passionnants, hein, parce que c'était très intéressant d'apprendre le fonctionnement de la société, l'histoire des institutions. Voilà, je n'étais pas un élève brillant en droit, mais j'étais un élève intéressé. Je me suis retrouvé face à moi-même et puis je me suis demandé ce que je voulais faire et j'étais passionné d'art et donc j'ai fait les études d'histoire de l'art, j'ai fait l'école du Louvre et puis j'ai fait après l'UFR d'art et d'archéologie Michelet Paris 1 et j'étais super heureux et puis je voulais devenir conservateur de musée pour faire comme aussi mon grand-père qui était archéologue et ça me passionnait et puis il y a 800 candidats pour 5 postes, alors j'ai tenté une fois puis deux fois, puis je l'ai raté et puis j'avais des bonnes notes quand même mais ça suffisait pas. Et puis je me suis dit je vais devenir prof et puis j'ai fait une thèse sur les dessins mythologiques du XVIIIe siècle et puis j'avais arrivé pas à obtenir des cours alors mon directeur de thèse m'a dit bon tu viens d'avoir un enfant il faudrait peut-être que tu travailles gagne ta vie je vais te faire un petit mot je suis édité chez Flammarion va passer un test donc avec ce petit mot. J'y vais, je passe des tests, on me file des textes en histoire de l'art, on plein de pièges, il faut trouver, celui-là c'est pas cette époque-là, vous pouvez pas, etc. Ça passe bien, et j'ai le plaisir de travailler pendant plusieurs années pour les éditions Flammarion, comme éditeur freelance, et aussi après comme directeur de collection, ils m'ont fait confiance, et c'était passionnant, j'étais dans le milieu des livres que j'adorais. Et j'ai fait ça pendant quelques années avec un grand bonheur, j'y serais encore si la crise du livre n'était pas passée par là, m'avait mis sur le marché du travail pas très longtemps, puisque finalement Flammarion m'a rappelé pour me dire « On voudrait bien te garder, tu vas aller chez Beaux-Arts Magazine qui nous appartient. » Et donc je suis allé chez Beaux-Arts Magazine, j'ai été rédacteur en chef des numéros hors-série, ceux qui suivaient les expositions, pas le magazine lui-même, mais les numéros hors-série. C'était le bonheur, j'allais voir toutes les grandes expos parisiennes, je travaillais avec les conservateurs. Et je sortais beaucoup de numéros par an, c'était éprouvant et très, très joyeux. Et boum, nouvelle crise du livre. Et donc, voilà. Il y avait une particularité à Beaux-Arts Magazine, c'est que la porte d'à côté, comme ça, hein, il y avait de grands bureaux vitrés, tour Montparnasse, vue splendide sur Paris, c'était génial. J'ai mon petit bureau, je peux bien installer. Je pousse la porte et c'était le bureau de Flic Glacial. Alors c'était vachement bien parce que j'avais l'impression que je pouvais, dans le même espace géographique, assouvir mes deux passions, l'art, l'histoire de l'art, et vraiment un amour immodéré pour la bande dessinée. Alors c'est génial de se dire qu'on est avec les impressionnistes et la porte d'à côté, on est avec Gottlieb, et c'est juste formidable. Et donc voilà, ça c'était une grande joie. Et puis boum, crise du livre. Et là, franchement, là, j'ai plus de porte de sortie. Et c'est les amitiés, le réseau qui m'ont sorti de cette ornière. Et j'avais un ami qui travaillait chez Gaumont, qui me connaissait depuis très longtemps, qui connaissait ma passion pour le dessin animé, pour l'écriture, la bande dessinée, etc. Et qui m'a dit, mais tu sais, ton travail de directeur de collection, d'éditeur, c'est pas si différent de ça, de ce que je peux envisager avec toi chez Gaumont, va passer des tests. Je repasse des tests et je suis pris et je deviens directeur du développement pour la recherche de nouveaux dessins animés chez Gaumont Multimédia. Je fais mes armes, je crée des choses intéressantes. J'ai créé par exemple les Rats, que vous avez peut-être vu, qui sont un peu diffusés encore avec un ami, Monsieur Z. J'ai développé pas mal de projets chez Gaumont. Gaumont s'effondre. Xylam me rachète avec les meubles et je travaille longtemps avec eux, voilà, sur des tas de projets passionnants. Et puis je commence à écrire. On me fait la proposition, j'écris. Je me débrouille pas mal, j'aime ça. J'apprends beaucoup, je lis beaucoup. Je prends tout le travail qu'on accepte de me confier, j'apprends. Et puis je donne ma dème et puis je deviens scénariste en essayant de vendre mes propres histoires. Voilà, et maintenant ça fait 15 ans que ça dure et ça se passe avec des hauts et des bas. C'est difficile de vivre de la bande dessinée. Je fais encore beaucoup de dessins animés, j'aime beaucoup ça, je me force pas, je suis très heureux. En ce moment, je dirige l'écriture de la 5e saison de Yakari. Donc je suis toujours dans l'adaptation, vous voyez, et je suis très très heureux de faire ça. C'est quelque chose qui me correspond bien, j'ai une tendresse pour cet univers et ces personnages. Voilà, c'est le travail et c'est le métier du scénariste aussi. Il faut vivre de son métier et on peut aimer Yakari et on peut aimer le Royaume du Nord, on peut aimer Fitzgerald et on peut aimer Stevenson et on peut, voilà, il faut écouter son cœur et sa sensibilité et on peut travailler comme ça, travailler sur des exercices très différents. Voilà.
Une question sur Yakari. Trouvez-vous que la bande annonce, la séquence d'intro est un peu courte, un peu longue plutôt, le générique?
Oui. Je peux même vous dire qu'il est quasiment obsédant, que je l'ai adoré, que je le supporte plus, et que Yakari, Yakari, hop, petite anne. Voilà, et on va le renouveler. Voilà. Merci. Oui. C'est la lassitude, hein, au bout d'un moment. Voilà. Mais voilà. Alors, la bande dessinée, comment c'est arrivé? Eh bien, je cherchais, quand je dirigeais le développement chez Gaumont et Xylam, je trouvais que ce qu'on proposait dans le domaine du dessin animé était trop stéréotypé, déjà trop près. Je cherchais des identités graphiques plus fortes et je suis allé chercher du côté de l'illustration. Et c'est comme ça que j'ai rencontré et Monsieur Z avec qui j'ai fait les Rats et Loïc Sécheresse avec qui j'ai fait les premiers albums de bande dessinée. D'abord sous du strip de comédie qui s'appelait Tozoïde et Vula. C'était un spermatozoïde qui voulait féconder un ovule. C'était du strip, c'était très court. C'était de l'humour cul. Et c'était assez bien fait, je pense. Et ça a suffi tout de même pour attirer l'attention d'un grand éditeur, Gallimard, qui est celui avec lequel je travaille maintenant depuis 10 ans. Voilà. Et que vous dire? Ensuite, l'adaptation, comment c'est arrivé? Par hasard. Tout simplement parce que je suis un gros lecteur. J'aime vraiment de choses très diverses. Ça a été très structurant pour moi, la lecture. Et Gatsby, je faisais déjà un peu de bande dessinée. J'avais déjà beaucoup écrit pour le dessin animé. C'est, comme je vous l'expliquais, un exercice extrêmement formateur. Travailler pour le dessin animé, c'est travailler pour des formats commerciaux, du 7, du 13 ou du 26 minutes. Il y a 36 000 personnes qui vous lisent pour vous dire que ce que vous faites, c'est pas assez bien. Et donc, c'est toujours très... un exercice d'humilité. C'est très technique comme travail. C'est notre travail... On donne le meilleur, on est critiqué, tout le monde nous enquiquine, et c'est pour passer entre les mains du storyboarder après, donc c'est encore remouliné. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est toujours raffiné, et il ne faut pas mettre trop d'ego, il faut savoir qu'on est au service d'un univers, qu'on est au service d'une commande, qu'on est au service de chaînes de télévision. C'est parfois un peu humiliant, mais c'est très, très formateur. Voilà, j'ai écrit en l'espace de 10-15 ans de métier environ 200 épisodes. Donc vous imaginez qu'on a le temps de tenter des choses, on a le temps de rater des choses, on a beaucoup le temps d'apprendre et c'est un exercice rythmique très fort et on pense tout pour l'image. Voilà, le Sénat. Oui, pardon.
J'ai une question. Quand vous parlez d'écrire le scénario, vous partez de quel point pour aller jusqu'à quel point? Parce qu'après,
oui,
vous dites que ça
d'accord.
passe au storyboarder.
Très bien.
Vous allez jusqu'à quel élément
oui.
du scénario?
Les trois étapes d'écriture, on parle de dessin animé là, mais finalement, c'est pas si éloigné que ça que de comment monter un projet pour de la bande dessinée, par exemple. Un pitch, ce qu'on appelle un pitch, 15 lignes. On propose une histoire, un dessin animé, on la vend. Si elle est acceptée, on vous fait un contrat. Ensuite, vous la développez sous la forme d'un synopsis, qui est, on va dire, presque un exercice un peu littéraire, où vous faites une description complète de votre histoire en plusieurs pages, ça dépend du format pour lequel vous travaillez, 7, 13 ou 26 minutes. Puis, si cette étape est validée, il peut y en avoir une ou deux. La deuxième, ce serait un séquencier, c'est-à-dire que finalement, vous avez déjà toute la structure rythmique de votre histoire, extérieur jour, la forêt. Et puis vous décrivez, dedans c'est une longue didascalie, vous décrivez ce qui s'y passe, vous donnez éventuellement des intentions de dialogue, extérieur nuit, le tipi, si on parle de Yakari, etc., etc., vous racontez ce qui s'y passe. Voilà, ça c'est le séquencier, et la forme aboutie, évidemment, le séquencier dialogué, qui est le script ou scénario, voilà, et donc avec le découpage en scène. Après, à quoi on aboutit? Eh bien, il faut avoir un petit peu de métier, il y a toute une littérature sur comment construire une histoire. Il y a très peu de littérature qui s'intéresse au format animation, c'est-à-dire au format court. Mais finalement, c'est presque les mêmes règles. Il faut un début, un milieu et une fin, des retournements, des contre-pieds. Après, voilà, c'est le métier de scénariste qui fait que comment on fait pour pas emmerder le spectateur. C'est aussi bête que ça. Moi, je me pose la même question quand je fais de l'adaptation ou du scénario original. Comment je fais pour pas emmerder le lecteur? Ben, j'utilise toutes les ficelles de mon métier. Que sont voilà, c'est le découpage, les flash-forward, les flashbacks, ça dépend à qui je m'adresse. Par exemple, pour le dessin animé, on s'adresse à un public très jeune, les chaînes de télévision n'aiment pas qu'on utilise le flashback, ils pensent que les enfants ne comprennent pas. Bon, j'ai un doute. Mais voilà. En revanche, pour un public plus adulte, on peut travailler, découper, utiliser tout un tas de techniques qui font qu'on va pouvoir rythmer vraiment le récit comme on le veut. Est-ce que j'ai répondu un peu à votre...
En fait, j'ai fait des études de scénario, mais il y a
oui.
très longtemps.
Oui.
Et je constate que selon les disciplines, les termes ne sont pas les mêmes. Vous avez employé pitch, ensuite synopsis. Synopsis, c'est assez commun à beaucoup
oui.
de trucs
oui.
de techniques d'écriture. Mm-hmm. Après, vous avez pris le séquencier à cet endroit-là.
Oui.
En cinéma, il y a souvent un synopsis évolué qui s'appelle le traitement.
Oui. Oui.
Après, vous avez parlé de séquencier dialogué. En cinéma, c'est continuité dialoguée.
Oui.
Et ce qui m'intéressait de savoir, c'était justement quelles étaient les étapes que vous
oui.
remplissiez, si ça passait dans les mains de quelqu'un d'autre entre-temps ou,
Non, généralement, le scénariste fait tout lui-même. Il y a parfois des collaborations entre scénaristes sur des épisodes courts. Mais disons que les formats de dessin animé sont suffisamment courts pour qu'on arrive à en avoir une appréhension presque globale et spontanée quand on la travaille. Bien sûr, il faut faire un plan, il faut construire son histoire, c'est très vrai, mais je pense que pour des plus longs formats, il faut passer davantage par toutes ces étapes parce que c'est comme... ce sont des couches qu'on superpose, le travail va se raffiner à force de passer d'étape en étape. C'est toutes des occasions supplémentaires de questionner le récit, de progresser lentement sur sa structure et de trouver le ton, etc. Et puis, pour tout vous dire, il y a tout un tas de terminologies emprunté au langage anglo-saxon, comme le traitement qui est le treatment là-bas. On s'arrache les cheveux toujours dans les boîtes de prod pour savoir vraiment de quoi on parle. Ouais, il y a un moment, on s'accorde autour de 3-4 termes qui est le pitch ou l'intention. C'est 15 lignes, une promesse d'histoire. On a juste le lancement de l'histoire, l'incident déclencheur et la promesse de « ils vont faire ça ». Et puis le synopsis permet de vérifier ensuite de développer les différentes étapes de construction. Normalement, l'histoire est complète hein, au stade du synopsis. Elle est décrite comme une petite nouvelle, en fait, vous voyez. Et puis après, mais on est encore dans un style agréable à lire. Après, on quitte l'agrément de la lecture pour passer à des étapes techniques qui sont du découpage, image, je ne vais pas dire image à image, scène à scène, séquence à séquence. Voilà. Puis ensuite, des dialogués. Tout ça est assez formaté. On sait par exemple qu'un scénario de 13 minutes doit faire entre, ça dépend si c'est de la comédie ou de l'action, des scènes d'intérieur, voilà. Et ça fait entre 15 et 20 pages, par exemple, et on va se dire, hey, attention, il ne faut pas dépasser 120 dialogues. Voilà. Donc tout ça est assez formaté, on sait, on a des repères pour s'y retrouver dans cet exercice du format court, hein, encore une fois, du format court. En bande dessinée, et ça dépend des éditeurs avec lesquels on travaille, mais il y a des formats commerciaux qui sont les 46 pages, etc., hein, qui sont la grande veine de la BD, Astérix et compagnie. Maintenant, moi, quand je travaille chez Gallimard, je sais que je vais rentrer dans une collection et donc j'ai une latitude entre 90 et 120 pages pour un format dit Bayou. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça correspond. Voilà. À moi de me débrouiller pour rentrer à l'intérieur. Disons que l'éditeur a calculé ses coûts pour les amortir dans cette marge-là.
Vous avez une séquence de scénario, d'écriture.
Oui, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment je travaille, tout à fait. On va rentrer dans le concret assez vite. Il ne faut pas que je me perde. Faites-moi signe. Donc voilà. Essayons de nous concentrer maintenant. Mais encore une fois, vous pouvez me poser des questions. C'est très bien parce que comme ça, au moins, je suis sûr que ce cours répond un peu à des attentes particulières. Si on va fonctionner un peu par ordre chronologique, Gatsby, voilà. Alors, Gatsby. Alors, je vais vous montrer, par exemple, des exemples de travail. Comment est-ce que c'est écrit un scénario? Alors, j'espère que ça va s'afficher. Là, on a un petit aperçu. Ça pédale un peu. Hein. Alors, moi, je suis très précis quand je fais le scénario. J'en ai besoin. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi, c'est comme ça que je travaille. Alors, Gatsby, qu'est-ce qui se passe? Je lis un article. Je vois que les droits sont libérés sur Gatsby. Ils passent dans le domaine public. Moi, j'ai ce roman-là. J'en ai une passion depuis que j'ai 15 ans. Ça me marche, je me dis j'ai une occasion formidable à saisir et je propose, je fais une longue lettre d'intention pour proposer mon approche de Gatsby, comment je souhaite l'adapter et ça marche et je veux faire ce projet uniquement si je peux le faire avec un dessinateur, un ami nantais, Benjamin Bachelier, avec qui je travaille régulièrement et je sais qu'avec lui ça va être juste formidable, on échange, voilà. Et on est d'accord pour adapter, moi la proposition que je fais c'est adapter Fitzgerald en Chine aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est Gatsby? Gatsby c'est la transformation des États-Unis en une grande démocratie république capitaliste. New York est rasée, ses vieux quartiers sont rasés. C'est le décor extraordinaire de Gatsby, c'est sur ces plaines dévastées, la ville dévastée avec les échafaudages qui s'installent et les constructions des premiers gratte-ciel, etc. C'est pas encore la crise de 29, mais elle va pas tarder. C'est les années folles, c'est tout ça. Mais quand vous lisez Gatsby, à part la déconstruction, reconstruction de New York, il est mentionné nulle part le jazz, il est mentionné nulle part les années folles, et on est surtout dans une magnifique histoire d'amour. Une magnifique histoire d'amour avec un personnage incroyablement mystérieux, une jeune femme fascinante et insupportable, et un narrateur extraordinaire, très mystérieux lui aussi, une sorte d'ingénu, sans doute homosexuel, n'osant pas tout à fait s'avouer. J'en parle vraiment en connaissance de cause, il y a des thèses et des débats sur les personnages de Gatsby aux États-Unis, j'ai essayé d'en lire quelques-unes, pour bien savoir de quoi je parlais. Et voilà, et je me dis, mais moi ça m'emmerde, les années folles, le jazz, j'adore. Et ça m'emmerde dans Gatsby, à chaque fois on nous la sert comme ça et moi c'est pas ce que je ressens la lecture, moi ce que je ressens c'est d'abord cette belle histoire, c'est une histoire de personnage, c'est une histoire de mystère, c'est une histoire d'échec, c'est une histoire merveilleusement triste et donc j'en ai une lecture d'abord très émotive, intuitive et je pense que le bon choix c'est de décaler tout ça pour oublier le filtre déformant des années folles, du jazz. Le mot jazz n'est pas prononcé hein, dans le roman, mais à chaque fois on nous resserre du Cab Calloway, etc. Et je me dis, mais en fait on ne comprend pas Gatsby, on ne voit pas. On voit que l'agitation, l'alcoolisme, les grandes fêtes. Mais c'est autre chose, c'est d'abord une quête amoureuse. Et j'ai un demi-frère qui est artiste plasticien, qui est invité à la grande exposition universelle de Shanghai. Il me ramène des photos hallucinantes de Shanghai en train d'être détruite et la construction de ses premiers gratte-ciel absolument extraordinaire. Et là, je fais le parallèle entre le New York des années 20 et le Shanghai des années 2000. Et ça s'impose. Je viens de voir In the Mood for Love. Je vois qu'il y a un glamour extraordinaire à trouver avec ses atmosphères, ses comédiens. Donc j'ai presque une approche un peu cinématographique de l'exercice. Et plus ça va, plus je creuse le sujet, plus je vois qu'en fait le parallèle est fort. Nous oblige à oublier complètement ce filtre déformant des années 20 qui, moi, m'insupporte Et donc on décale tout avec Benjamin et on transpose ça dans le monde contemporain et ça marche bien, je crois, puisqu'à nouveau on voit ressurgir cette histoire d'amour et les personnages prennent de l'intérêt et on oublie un peu ce grand raout que fait Baz Luhrmann ensuite en agitant la bouteille et ça fait quelque chose, à mon sens, d'un peu indigeste et informe. Et moi, je voulais quelque chose de plus mélancolique et triste et beau et romantique. Et voilà. Donc, une transposition, c'est une vision. C'est une vision, quelquefois. C'est un décalage. Il faut que ce soit justifié. Il ne faut pas décaler pour décaler, à mon sens. Là, je pense que mon raisonnement, ma sensibilité, la vision que j'en avais permettait de justifier cette transposition pour qu'on en ait une relecture. Voilà. Mon idée, c'était qu'on arrive à relire Gatsby le Magnifique. Voilà. En fait, je me dis, j'espère que les gens achèteront l'album parce que ça m'aidera à vivre, mais j'espère qu'en achetant l'album, ils auront envie de relire le livre. Parce que mon premier plaisir, c'est d'abord la lecture du roman. Et en fait, j'ai envie d'y amener les gens. Et la bande dessinée est une façon d'y arriver. Alors, je vous montre un peu. Alors, quand je vous dis que c'est assez précis, je vais essayer de diminuer un peu pour vous ayez une vision un peu synoptique de. Moi, je truffe mes scénarii de documentation. J'aime bien ça. Ça rend les choses concrètes. J'ai le plaisir de me balader sur Internet. Là, je cherche des belles robes pour les grandes fêtes de Gatsby. Donc, vous voyez, je fais un découpage à la page. Là, c'était même pensé en termes de strip. Avec Benjamin, on s'était calé sur un gaufrier de 9 cases. Hein, vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? D'accord? Si vous ne comprenez pas, vous me dites, ça veut dire quoi un gaufrier, etc. Bref, c'est une manière de diviser la page, tout simplement. Donc là, je l'avais réparti en strip. Alors, je vais assez loin. Il m'arrive de proposer même des plans champ contre champ, plongée contre plongée, format large, etc. Et simplement, moi, j'impose rien. Moi, je sais que encore une fois, moi, j'ai besoin de passer par là. Après tout, c'est assez personnel comme méthode de travail. Mais c'est pas moi qui suis metteur en scène. Moi, je travaille pour quelqu'un qui va mettre en image. Le scénario ne sera jamais publié, il sera oublié. Après, on s'en fout. Et c'est le dessinateur, au bout du compte, qui va compter. C'est lui le grand metteur en scène. Donc, s'il veut supprimer une case, s'il a une meilleure idée, je prends. Voilà. Le scénariste, c'est pas lui qui met la forme finale. Moi, j'ai besoin d'aller assez loin, mais ça ne me gêne pas qu'on corrige encore les choses derrière. Moi, j'ai amené le matériau le plus raffiné possible au dessinateur, après lui, à lui de voir. Et après, on arbitre, hein, des tas de choses, je ne suis pas forcément d'accord, mais ça discute, c'est normal. Donc, je me documente, je cherche, voilà comment ça se construit. Vous voyez, là, c'est des parts strip, c'est décalé en page. Là, je cherche... je lui donne des référents pour le personnage de Jordan Baker, qui est cette espèce de tricheuse mondaine, joueuse de golf, qui se balade, qui fait un peu le lien entre les personnages, qui essaye de séduire Nick. C'est une expérience hétérosexuelle pour le personnage de Nick, qui, je pense, lui est plutôt attiré par les hommes. Il essaye de s'insérer, on sent le malaise des années 20, où il est difficile de vivre son homosexualité de manière ouverte, etc. Et donc voilà, je cherche des références, donc je me balade sur Internet et je cherche des stars qui pourraient, voilà, donc je propose des supports visuels pour me faire comprendre du dessinateur, et donc je truffe voilà, mes scénarii de références, soit des liens, soit des images. Voilà, ici vous n'avez pas de dialogue, si un petit peu en dessous là, voilà. Et je pousse les choses assez loin jusqu'à lui proposer de la mode. Après, alors vous voyez ces belles robes. Alors, je pense qu'on la voit apparaître. On la voit apparaître dans une case. Vous voyez la case en bas. Voilà, vous allez voir. Hop, le personnage du bas, on retrouve ces jolies robes réinterprétées par Benjamin. Alors, l'adaptation, c'est la fidélité au texte, bien sûr, et à l'esprit de l'auteur. Maintenant, moi, j'allais pas mettre Shanghai des années 2000 et j'allais pas juste montrer des gens faire ça, quoi, pour faire la fête. Puis surtout que les fêtes de Gatsby, elles sont absolument censées être extraordinaires. Les gens ne connaissent pas Gatsby, mais se déplacent dans ces fêtes pour en être. Alors, je me suis dit, mais moi, je serais Gatsby, j'aurais tous les moyens. je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je veux faire une fête mémorable pour attirer ma belle qui habite de l'autre côté du fleuve. Ben, je me paye James Cameron. Technologie, super metteur en scène, il va me faire un truc hallucinant. Et j'imagine des hologrammes qui se déplacent avec des beaux poissons chinois. Il fallait que ça reste dans l'esprit chinois. Et voilà, qui se glissent entre les convives. Donc c'est une affaire d'imagination aussi, bien sûr, adaptée. Mais là, cette scène-là n'existe pas dans le roman. Tout ce qui existe dans le roman, on nous dit que les gens dansent beaucoup, qu'il y a les deux sœurs jumelles en robe jaune, que tout le monde se demande où est Gatsby, puis on quitte très vite la fête pour s'intéresser aux embouteillages de voitures de luxe sur le parking, les gens qui s'engueulent, etc. C'est ça qu'il y a dans le roman. Mais c'est pas, y a pas de description visuelle de la fête. Voilà. Et moi, je travaille pour l'image. Donc je dois proposer quelque chose, donc je dois inventer quelque chose. Donc là, je dois m'écarter du texte pour finalement mieux me rapprocher du texte, c'est-à-dire transmettre visuellement ce que c'est que ces atmosphères, faire un travail créatif, d'invention, et c'est aussi ça l'adaptation, c'est-à-dire c'est à la fois respecter l'auteur, être proche du roman, mais comprendre aussi que ce sont deux exercices différents. Écrire un roman, ce n'est pas écrire un scénario, et écrire un roman, ce n'est pas préparer un travail à la bande dessinée, donc il y a un changement de langage. Il y a le passage d'un exercice littéraire qui s'adresse à la pensée, à l'imagination, au cerveau. Et là, on s'adresse différemment. On propose des images pour tout cet exercice agréable de s'entendre raconter une histoire. Donc ce sont des pages qui ont beaucoup plu, qui ont marqué un peu l'atmosphère de Gatsby. Je vous en remontre encore quelques-unes. Voilà. Ces belles jeunes femmes que vous avez vues dans ces robes, et j'ai imaginé qu'elles marchaient sur l'eau, et donc il y a des dialogues qui n'existent pas du tout dans le roman, où tout le monde s'étonne que ces jeunes femmes ne disparaissent pas dans l'eau, et j'imagine des artifices, est-ce qu'il y a une plaque de verre, etc. Puis après on voit quelqu'un plonger dans la piscine, qu'on ne sait pas, est-ce que c'est de la magie, de l'illusion, enfin voilà. Je me suis dit, ce serait une fête fantasque du 20e siècle, du 21e siècle. Après, il y a tout ce travail de préparation qui est le travail.
Juste, je peux vous poser une question.
Oui.
Cet aspect, je comprends votre intérêt sur la, le respect du texte d'auteur, mais du coup, vous condensez. Hein, alors dans une BD, on ne lit pas beaucoup du texte d'auteur. Donc, tout en cherchant à respecter l'auteur, vous prenez quand même la liberté de créer du texte qui n'existe pas.
Oui, oui, l'adaptation, pour moi, le respect de l'auteur ne passe pas par un copier-coller, sinon autant lire le bouquin. Mmh. Voilà. Moi, je pense que il faut accepter que ça repasse par une autre vision artistique, la mienne, ma sensibilité, et celle du dessinateur. C'est une transposition, adaptation. Lorsqu'un récit arrive au statut d'un mythe, pensez par exemple à l'Iliade et l'Odyssée. Ça fait combien de temps qu'on nous raconte cette histoire? Qui s'en lasse? Personne. On la passe en cinéma, on la passe en théâtre, on raccourcit, on condense. Moi, l'Iliade et l'Odyssée, j'ai découvert dans des très beaux albums Castor, avec un illustrateur suédois, j'oublie son nom, mais c'était juste sublimissime, ça ressemblait aux vases qui s'animaient eux-mêmes, les vases grecs, etc. Et je n'avais qu'un condensé de tout ça, mais j'ai rêvé, et je suis allé lire après. Et l'adaptation, c'est ça. L'adaptation, c'est choisir de raconter une histoire à un enfant, mais peut-être une grande histoire, un grand mythe, ou ensuite à un adulte, et donc on adapte le langage. Moi, qu'est-ce que je fais d'autre que d'adapter à un langage qui me fascine, qui est partagé par beaucoup de gens, qui est celui de la bande dessinée. Après, je suis face à un récit dont je ne peux pas, moi, à travers ce médium qu'est la bande dessinée, explorer, je ne peux pas reprendre toutes les possibilités, c'est pas possible, c'est pas le même langage. Mais j'ai un langage à moi, il faut accepter qu'il y ait une déformation qui restitue d'une autre façon, je pense, l'atmosphère générale du livre ou l'intention de l'auteur. Et quand je parle du respect du texte, c'est du respect de l'intention. Bon, je suis le seul à pouvoir en juger au départ, ensuite les lecteurs. Sans doute que cette adaptation n'a pas plu à tout le monde, on me l'a dit. Comment vous avez osé vous attaquer à Gatsby magnifique, et en plus le décaler avec des personnages chinois et aujourd'hui. Donc il y a une vision, il y a des gens qui ont une vision très sacrilège de cet exercice. Je pense que c'est un peu stupide, pardonnez-moi, parce que il y a des adaptations qui sont parfois impossibles, et puis soudain elles sont réussies, il suffit de trouver le bon angle, le bon langage, le bon médium. mettez-vous dans une salle de cinéma, allumez la télévision, 75% des films ou des séries que vous voyez sont issus de romans ou d'adaptations. Parler d'un langage à l'autre, il y a des symphonies qui partent de tableaux. Les Grecs et les Latins disaient la peinture, c'est comme la poésie. Je veux dire, ce sont des langages artistiques qui se répondent. Pourquoi cloisonner ? Il y a beaucoup de... Fitzgerald a travaillé pour Hollywood. Donc c'est grotesque de mettre les gens dans des cases. C'est grotesque de ne pas avoir l'audace de s'attaquer à un ouvrage. Si on l'aime, on le partage. C'est un partage sous d'autres formes. Voilà, c'est tout.
Et juste en prolongement, parce que ce n'était pas une critique.
Non, du tout. Je ne le prends pas comme tel. J'explique.
Juste pour comprendre comment ça fonctionne. Oui. Du coup, donc vous écrivez un peu de texte en fonction de votre sensibilité.
Oui.
Mais quand même, vous vous basez sur le texte de l'auteur.
Bien sûr.
Donc il y a des arbitrages sur les coupes.
Tout à fait.
Un passage,
oui.
Dire.
Oui. Oui, alors voilà comment je travaille. J'ai d'abord une première lecture très émotive du récit, c'est-à-dire je le lis comme n'importe qui, juste je suis dans le plaisir de la lecture et l'émotion de la lecture. Et je le lis quand même avec un petit crayon. Et je me dis, waouh, ça c'est fort ça. Ça c'est beau là. Je le coche. Ça, il faut pas passer à côté de cette scène-là. C'est le petit caillou du petit Pousset. Si on le perd, celui-là, on s'est perdu, on a raté le chemin. Et je continue comme ça, et j'ai une lecture uniquement émotive. Je sais qu'il faut qu'on passe par ces émotions-là, parce que qu'est-ce que je fais quand je lis, quand je vais au cinéma? Je vais chercher des émotions. Et je veux qu'on... Le respect de l'auteur, c'est ça. C'est où sont les belles scènes émotives? Par où il nous a fait passer? Il nous a pris par la main, il a pris du temps pour écrire, pour nous faire partager tout ça. Moi, c'est ce que je dois retransposer. Donc j'ai une lecture émotive. Et une fois que j'ai ce balisage finalement émotif, alors là je vais commencer à intellectualiser, je vais chercher des rapprochements, je vais penser à un décalage, je vais passer des filtres, je vais commencer à dire bon attends, maintenant mon récit chronologique, je pars d'où pour aller où, alors je me décris mon arc narratif, voilà. Et puis ensuite je vais dire bon alors émotionnellement ça passe comment, là j'ai une ascendance, là on redescend, c'est plus mélancolique, faut l'accepter, est-ce que je suis pas trop long, j'emmerde pas les gens, et il faut à nouveau changer de rythme, voilà. Et j'en ai une lecture rythmique après avoir une lecture émotive, et j'ai une lecture ensuite chronologique aussi, je me dis ah, est-ce que je passe bien, j'ai pas tout raté, attention, je dis ça à ce moment-là, mais est-ce que j'ai préparé cette scène, est-ce qu'on va bien la comprendre, etc. Puis après le récit se construit, puis on commence à passer au dialogue, et puis et encore une fois, tout ça est très abstrait parce que rien n'est dessiné encore. Et donc, il y aura même après, une fois que le storyboard est fait, à nouveau une relecture et un lissage des dialogues parce que des choses ont bougé, des cases se sont déplacées, parce qu'il faut qu'il y ait un agrément de la lecture. Voilà. Et en fait, je fais passer le récit par différents filtres d'analyse pour essayer de restituer toute la palette de l'auteur. Voilà, c'est ça l'idée. Est-ce que je réponds bien à la question ?
Forcément bien.
D'accord.
C'est votre façon de travailler.
Oui, d'accord. Mais je dirais, est-ce que c'était complet comme... Bon, après, voilà, comment on construit un projet. Voilà, on fait une petite note d'intention. Alors, voilà, pour Gatsby, ben, je parle du fait qu'il est tombé dans le domaine public. Vous voyez comment on monte le projet auprès de l'éditeur. Je pense que ça peut vous intéresser aussi du point de vue professionnel. Donc, j'avais trouvé un petit exergue qui était intéressant, qui replaçait bien le sujet. C'était voilà, l'exergue de la version poche du roman. Après, je parle des années folles, de la manière dont il faut le décaler, qui sont les personnages, etc. Bref, c'est une sorte de petit article pour convaincre l'éditeur de l'intérêt. Je pensais que c'était intéressant de vous donner un petit aperçu.
Est-ce que cet aperçu est disponible quelque part sur votre site ?
Non. Je n'ai pas de site. Hein. Je devrais. Hein. Ça vous intéresserait.
Oui.
Bon, en même temps, bon, là, je vous montre un peu les choses, puis je brouille un peu, parce que c'est de nature peut-être un peu confidentielle. J'en sais rien, pas pour moi, mais pour,
oui,
peut-être pour l'éditeur.
Forcément aller aussi loin.
Voilà, mais voyez un peu comment... voyez, l'exercice est simple. Hein, ce qu'il faut, c'est mettre vos tripes sur la table. C'est-à-dire dire, moi, voilà, si j'ose m'attaquer à ce truc-là, voilà pourquoi ça se justifie. Pourquoi c'est intéressant de le faire. Si c'est juste du pillage, ça ne m'intéresse pas. Il faut avoir une proposition à faire. Il me semble.
Excusez-moi. En fait, c'est pas juste... raconter, enfin résumer l'histoire et les points clés, mais vraiment donner des arguments, rentrer dans le...
Oui.
Parce que là, je voyais les titres des rubriques, ouais, c'est pourquoi,
oui.
Pourquoi c'est intéressant,
oui.
Pourquoi je le décale.
Oui. Okay. C'est exactement ça. Oui, il faut être convaincant.
C'est parce qu'il y a un inventaire commercial.
Absolument. Ah, mais, oui, mais vous pouvez l'appeler comme ça. J'ai envie. Il y a de l'argent qui circule. Il faut que je vende mes projets. C'est un argumentaire commercial. Il a une dimension artistique. Il part d'une intention véritable. J'ai choisi ce roman-là et pas un autre. Donc, j'y mets ma sensibilité. J'ai une envie sincère de le faire. Mais oui, vous avez raison. Bien sûr, il s'agit de vendre un projet. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, les Royaumes du Nord, c'est ce qui me portait un peu principalement vers vous. Bon, je vous montre un peu... vous voyez la grotte pour travailler. Voilà, comme on est installé, hein, on travaille bien, c'est confortable. J'ai mis en fond d'écran Yorek, le formidable Yorek, le personnage d'ours en armure de Pullman. C'est bien de voir un peu le cadre de vie. Voilà, par exemple, tout mon travail a été divisé en chapitres. Je me suis fondé sur la répartition en chapitres de Pullman. J'aime bien ce rythme. C'était chapitré, ça m'a aidé à calibrer mon travail. Il s'agit, on va mettre 10 albums pour adapter sans doute 3 à la trilogie de Pullman, 3 volumes. C'est un récit qui était très dense, très riche, avec beaucoup de sous-entendus politiques, des luttes de pouvoir, beaucoup de personnages. Il a fallu faire du tri. Moi, j'ai fondé mon découpage d'abord sur le chapitrage de Pullman. Ça m'aidait bien, déjà, dans la quantification de mon travail. Et là, bah, par exemple, je ne sais pas, il y a des chapitres pour le tome 1, je crois. Voilà,
c'est... Et là, c'est un format, encore une fois, 48 pages standard.
Non, c'est là, on est entre 70 et 80 pages. Oui. Je vais essayer de vous montrer un peu plus concrètement. Bon, vous voyez, ça, c'est les différentes formes. Hein, voilà comment je travaille. Bon, vous voyez le balisage que je fais après sur les scènes qui m'intéressent, etc. Le balisage de couleurs. Les couleurs ne veulent rien dire. C'est juste... voilà. C'est pour m'y retrouver vite, parce qu'on revient très souvent au livre quand on a des doutes, pour retrouver des bons dialogues aussi, des fois. Parce que quand je fais ça, on dédommage aussi le traducteur, et c'est bien normal, parce qu'il fait un beau travail d'adaptation. Des fois, il a su trouver la bonne formulation qui, moi, m'aide à résumer un propos. Donc, je reprends... quelquefois tel quel, un excellent dialogue. Je ne vois pas pourquoi j'irais me pourrir la tête ou tomber un truc moins bien si c'est parfaitement exprimé. Donc ça se négocie, ça se paye, c'est bien normal, c'est son travail. Des fois, je ne m'y retrouve pas et je vais chercher dans la version anglaise, non pas que je sois un génie en anglais, mais comme vous tous, je regarde des séries, je me débrouille pas trop mal, j'y arrive. Je lis assez bien l'anglais maintenant. Et quelquefois, on trouve des choses intéressantes parce que la traduction est déjà elle-même une adaptation avec des choix. Quelquefois, c'est bon de revenir à la source parce qu'il y a des petites subtilités qui apparaissent dans la terminologie originale anglaise et qui permettent d'être un peu plus subtil après dans l'adaptation, faire des choix sur des personnages ou des atmosphères. Voilà.
Excusez-moi, vous les lisez du coup en langue originale ?
Oui. Alors, je suis très honnête, pas intégralement. Je vais chercher les passages sur lesquels j'ai des doutes, d'accord ? Mais je n'ai d'abord ni le temps parce que. Je suis comme tout le monde, je fais un ratio entre l'argent que je gagne et le temps que je passe. Pour faire un scénario d'album pour les Royaumes du Nord, il me faut 3 mois. Voilà. Et je gagne 6000 euros. Voilà. Donc.
Sur les 3 mois, oui.
Voilà. Et donc c'est bien, je ne vais pas me plaindre. Je fais partie des auteurs de bande dessinée privilégiés, certainement. Voilà, si je devais en plus passer du temps, et j'ai lu beaucoup de choses, hein, parce que j'ai lu évidemment les ouvrages, je suis allé chercher d'autres éléments d'information à l'extérieur, j'ai lu des articles pour essayer de mieux comprendre les personnages, je suis allé faire des recherches, j'ai relu de la poésie anglaise, je suis allé, bref, donc j'ai passé beaucoup de temps, et j'y ai beaucoup de plaisir, et donc je reviens sur la version anglaise uniquement pour les passages qui m'intéressent.
Sur un ouvrage plus récent comme celui-là, vous avez parlé du traducteur, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres intermédiaires sur lesquels il faut réussir à avoir les avoirs, en plus de l'auteur, bien entendu. Comment ça se passe de réussir à pouvoir adapter une œuvre? Est-ce que l'auteur doit forcément être d'accord ou pas forcément? Est-ce que comment ça se passe dans la négociation de l'utilisation par rapport à l'auteur qui est là pour le coup encore en vie?
D'accord. Alors, je vais vous raconter comment ça s'est passé autant que je sache, parce qu'il y a une partie des négociations qui sont assez secrètes, très commerciales et qui nous échappent, nous, en tant qu'auteurs. D'accord ? Pullman, il avait dit plus jamais d'adaptation des Royaumes du Nord, c'est terminé, le film est raté, je suis malheureux, basta, tout ce qui a été fait, c'était une transposition en pièces par le National Theatre de Londres, qui était ce que Pullman considérait comme la meilleure adaptation du premier roman de sa trilogie, uniquement, personne n'est allé au-delà. Ni le film, ni le roman. Une adaptation en feuilleton radiophonique à la BBC aussi, qui était pas mal. Mais il avait dit, c'est terminé. C'est terminé. Et puis, Clément Aubrery, le dessinateur avec qui j'ai le bonheur de travailler sur cette adaptation, lui, il a dit, si, on va lui écrire, on va lui demander. Vas-y, fais une lettre. Une lettre un peu comme celle que je vous ai montrée, une sorte de note d'intention. Voilà, on se livre, on dit, si c'était possible, voilà comment nous on le verrait, et on prendrait notre temps, et on sabrerait pas trop, et on essaierait de restituer toute la complexité de vos personnages, de votre univers, et on voit le projet immédiatement comme très ambitieux, 10 albums, et Clément tombe des dessins sublimes, et puis plus rien. Et puis un petit email, c'est bon, vous pouvez le faire, je suis très content. Magnifique dessin de Clément, dont je connaissais l'adaptation de Raymond Queneau aux Asies dans le métro. Il lit parfaitement le français, M. Pullman. Et puis, bravo à moi qui étais encore un peu un illustre inconnu à l'époque, Stéphane, pour cette très belle compréhension de mon travail. Et d'accord. Et donc, 6 mois de négociations financières pour racheter les droits à M. Pullman, dont Gallimard possédait les droits français, mais là, il s'agissait de détendre, puis de négocier les choses entre nous trois, M. Pullman, moi et Clément. Mais tout ça s'est fait entre les agents, et voilà, c'était des accords commerciaux, de diffusion, je ne sais pas trop ce qui s'est fait. Mais voilà comment on a emporté la conviction, c'est avec un travail relativement classique, soutenu certes par un éditeur prestigieux, ce qui aide, parce qu'il a les bons contacts, et qui permet... sans doute de mettre des choses dans le tapis dont nous, on n'a jamais eu idée, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça s'est fait comme ça, mais au cran. au cran. Bien relayé, certes, avec, mais du cran, à la base. Moi, je ne savais pas que... Je n'étais même pas sûr que Gallimard accepterait 10 volumes de BD, je ne savais rien. Sauf que moi, je ne pouvais pas le faire autrement. Je m'étais dit, si on coupe davantage, on va trahir l'auteur, il est déjà malheureux. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, après il y a de l'intuition, il faut sentir les choses, il faut se renseigner, et puis voilà comment ça s'est fait. Et puis ensuite, comment techniquement, j'ai rendu le scénario avec la trouille au ventre, parce que c'est pas pareil de travailler pour un auteur mort et un auteur vivant. L'auteur vivant, il vous lit et il peut vous critiquer. Et quand c'est quelqu'un qui vous critique, qui a la stature de J.K. Rowling dans le monde anglo-saxon, vous avez pas envie de déplaire. Et donc on attend, on espère que tout va bien se passer. Et heureusement, ça se passe bien, et du coup, ça décoince un peu pour les albums suivants. Et il est bienveillant, il sait ce que c'est qu'une adaptation, il a très bien vu les choses que j'ai transformées dans son roman, et il les a acceptées. Donc encore une fois, à tous les gens qui disent c'est un scandale d'adapter, etc., ben oui, mais là, l'auteur est heureux. Il est heureux, il nous remercie, ça relance l'intérêt pour le roman, ça lui redonne envie peut-être de tas de choses, et donc on ne voit pas du tout l'adaptation comme une trahison, mais comme une nouvelle déclinaison, comme une nouvelle manière de transmettre un univers. Je veux dire, les auteurs, ils ont envie d'être lus, ils ont envie d'être aimés, ils ont envie de partager, et la bande dessinée et l'adaptation, que ce soit par le cinéma, la bande dessinée ou d'autres encore, c'est une manière de transmettre leur univers. Ils sont heureux et fiers de tout ça, quand j'espère c'est bien réussi.
Par contre, j'imagine que quand vous l'avez sollicité, les scénarios très finaux n'étaient pas encore écrits.
Non, c'est vrai.
Comment est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, tiens, ça, la trilogie, je vais faire 10 tomes. Ça pourrait être 20,
oui.
Ça aurait pu être 30, ça aurait pu être moins.
C'est l'intuition, c'est le métier. C'est le métier, ça faisait, quand je propose ça... j'ai déjà écrit beaucoup d'histoires et je sens qu'il faut lui parler comme ça, et que moi c'est aussi comme ça que j'ai envie. À un moment il faut se dire, soit je le fais comme moi j'ai envie, parce que ça va être une longue aventure et donc autant faire ce qu'on a envie de faire, soit il faut pas le faire, quoi. Et donc moi je voyais ça comme une longue saga, et c'est ce que c'est de toute façon, c'est 3 tomes, c'est des péripéties à n'en plus finir, c'est des univers parallèles, c'est beaucoup de personnages, donc je pense que l'une des erreurs du film, par exemple, c'est d'avoir voulu résumer ce volume-là en un film de 2 heures. Et il a été obligé de sabrer dans toute la complexité. C'était peut-être possible pour Harry Potter, c'est pas possible pour M. Pullman. Il fallait le sentir. Moi, je l'ai senti. Le scénariste et le réalisateur ont fait d'autres choix. Peut-être ils ont eu les mains liées aussi. Les producteurs font de la pression pour que le film dépasse pas. J'en sais rien. Bref, on aboutit pour tout un tas de bonnes ou de mauvaises raisons à un format qui n'est pas celui qui devait l'être. Moi, j'ai la chance de pouvoir le proposer et que ce soit accepté, et ça se passe bien. Et ça se passe bien. La suite me donne raison, finalement. Monsieur Pullman accepte de changer d'avis et l'éditeur est content. La bande dessinée remporte un certain succès. Donc voilà, c'est un pari. Je peux pas vous dire... Je le fais avec sincérité. Voilà, c'est tout. À un moment, il faut y aller, quoi.
Une autre question, donc bonjour, la question de monsieur, par rapport à votre relation vis-à-vis du dessinateur, parce que là on voit l'auteur satisfait, mais vous, en tant que scénariste, est-ce que vous êtes parfois déçu du dessin qui ne retranscrit pas l'émotion que vous pensez qu'il y a dans le livre ou dans votre scénario par rapport à ce que l'auteur rend, comment ça gère?
Oui, alors, pour Gatsby, par exemple, c'est moi qui vais chercher le dessinateur, je sais très bien ce qu'il va faire. Donc je sais déjà que ce sera réussi et c'est encore plus beau que ce que je croyais. Clément, je le connaissais un peu, je connaissais son travail. Avant, il faisait Aya Diopougon, donc très différent de Royaume du Nord. Il a une personnalité particulière, il a l'air un peu fermé, c'est le type le plus charmant du monde, mais c'est juste qu'il faut un peu casser la glace. Et donc, je ne sais pas du tout si ça va marcher. Son dessin, moi, j'admire, je trouve ça très beau. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et puis, c'est un peu un mariage forcé au début. Et puis en fait, Clément, il aime le roman, il parle beaucoup avec moi et il transforme son travail, son style. Je ne veux pas dire que ça n'arrivera pas un jour d'être déçu par un dessinateur, ça peut arriver qu'il y ait une mésentente. Après, moi je prépare bien le terrain, je parle beaucoup avant, on voit si on a la même référence, je fais lire des choses, on me fait lire des choses, je vois bien si ça va marcher ou pas. Clément est super intelligent, grand dessinateur, il s'adapte, il comprend, il propose même une technique différente. Pour travailler, rendre cette atmosphère un peu gothique du premier roman, du premier volume, qui se passe beaucoup à Oxford, etc. Et donc, il fait son crayonné, il dépose un brou de noir pour faire tous ses ombrages, ça donne ce côté un peu fumeux, sfumato, on dirait, à la Renaissance. Et puis, ensuite, il fait son passage de couleur, et ça rend ces très belles atmosphères... qu'on voit après un peu derrière, là. Pardon, je ne suis pas très bien sur les visuels. Mais oui, voilà. Et ça se passe bien. Là, je suis peut-être travaillé avec Berberian aussi pour l'adaptation d'un... Je fais beaucoup d'adaptations. Hein. Au début, je m'en défends. C'est Pénélope Bagieu qui est aussi édité chez Gallimard, qui me dit, en fait, Stéphane, l'adaptation, c'est ta cam, en fait. C'est le truc qui te fait... Je dis non, pas du tout, je fais des scénarios originaux aussi, c'est pas... Mais en fait, je pense qu'elle m'a assez bien percé, j'adore ça, j'adore lire, j'adore les retransmettre, et c'est vrai que c'est ma cam, j'aime beaucoup ça. Après, je ne fais pas que ça, mais j'ai un vrai plaisir à travailler sur un très beau texte, un plaisir de lecteur, et une propension à savoir ensuite, et à aimer faire cet exercice vers la transposition visuelle. Donc c'est vrai que je suis heureux et à mon aise dans cet exercice, voilà. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, pourquoi je développe tout ça. Voilà, donc passons à autre chose.
Est-ce que vous considérez que vous faites une sorte de travail de traduction pédagogique?
Non, je ne me pose jamais la question en termes de pédagogie, c'est uniquement en termes de plaisir, en termes émotionnels. Je sais que parfois les gens ont un rapport un peu pédagogique auprès de leurs enfants avec les Royaumes du Nord, c'est comme c'est considéré comme un livre assez difficile et même une bande dessinée assez difficile au sens où il y a des passages avec beaucoup de textes, donc c'est un exercice de lecture et c'est quand même un univers assez complexe, même s'il s'adresse aussi aux enfants, mais pas que. On a eu le bonheur de rencontrer le prix du meilleur album jeunesse à Angoulême pour ça, mais en fait c'est pas un ouvrage qui est estampillable jeunesse. Et bien sûr il peut plaire à des enfants et ça m'a bluffé même que les enfants choisissent ce livre-là. Mais pour moi, comme le roman, il s'adresse à tous les publics. Ça commence à 8 ans pour les meilleurs lecteurs et ça se termine, il n'y a pas de raison que ça se termine après. Et c'est un univers qui permet différents niveaux de lecture. C'est toute la richesse de ce travail. Et Clément a répondu à ça graphiquement aussi. Il a un trait qui est un peu plus mature, pas forcément immédiatement compréhensible et on l'appréhende pas forcément facilement. C'est plus travaillé, c'est plus. On est loin du dessin animé, des figures un peu géométrisables, appréhendables en un quart de seconde. Là, c'est un dessin qui permet de se poser devant. On surprend des détails, des atmosphères. C'est un dessin qui se livre pas comme ça immédiatement et donc qui permet ces deux niveaux de lecture. Et après, dans l'adaptation aussi, ça a été mon souci. Ça a été de préserver ces deux niveaux de lecture, d'avoir un niveau aventure, un personnage, petit démon extraordinaire, la fascination pour ça, et en même temps, même à des adultes qui ils ressentent derrière les enjeux de pouvoir, la cruauté, la violence quand elle a lieu, elle doit avoir lieu. La tension monte hein, dans les trois albums, le troisième qui est en train d'être dessiné par Clément. Il y a des moments vraiment durs, et moi je ne veux pas les cacher, ça fait partie du roman. Il ne faut pas prendre les enfants pour des cons, il ne faut pas prendre les lecteurs pour des cons. Si l'univers est violent, s'il devient sombre et noir et profond, et parfois désespérant, purée, c'est la lecture émotive du roman. Il faut l'accepter, il faut la transposer dans la bande dessinée, il ne faut pas rouler les gens. C'est l'adaptation, c'est ça aussi. Quoi. C'est, si ce roman est sombre, la bande dessinée doit être sombre. Ce n'est pas parce que c'est pour les petits enfants qu'il faut que ce soit... voilà, après Clément, il gère la violence aussi dans son dessin, on en parle, on a beaucoup parlé de la violence à l'intérieur. Il y a des moments où on la traite parfois avec un tout petit peu d'humour. Il y a quelques tartares qui se font décapiter, on dirait que les ours jouent au basket. Bon, ça nous fait. Voilà, ça passera mieux. Après, il y a des moments terribles. Dans le troisième tome, il y aura un combat entre les deux ours en armure, entre Yorek et Yofur, pour la reconquête du royaume des ours. Dans le roman, il défonce la mâchoire et elle tombe et ça gicle le sang partout. Après, il enfonce la patte dans le thorax et il ressort le cœur. C'est génial. On est un gosse, on dit ça. On va pas supprimer ça. Et l'adaptation, il faut la voir et ça va pisser le sang. Et c'est cool et c'est ça qu'il faut lire. Et parce que l'auteur nous a fait passer par là et qu'on a eu un moment où on fait wouah. Et ben il faut restituer ce plaisir et c'est l'adaptation, c'est ça aussi. Voilà. Après des fois moi je me mêle un peu de ce qui me regarde pas. Mais ça c'est toutes mes études d'histoire de l'art. Et il y avait ce très beau tableau d'Aldorfer là qui représente la bataille d'Alexandre. Alexandre le Grand, et c'est un tableau du XVIe siècle par un peintre allemand, et moi je me rappelais de ces atmosphères de couleurs dantesques, etc. Et donc j'envoie les tableaux, et je propose ensuite à Clément d'y réfléchir à cause de la palette de couleurs hallucinées de cette aube qui se lève sur ce front de bataille, et Clément voilà, va reprendre des éléments qu'il va utiliser pour des incendies, et on parle de couleurs, et moi j'ai cette appréhension globale de l'adaptation, c'est que je vais un peu sur le terrain du dessin, quelquefois, si le dessinateur me le permet, comme de la même manière, lui va me dire ouais, ton dialogue, là, franchement, on ne comprend pas, faut que tu le revoies, ou alors ça ne colle pas, ou là, donne-moi une respiration, tu vas trop vite. Donc il y a un dialogue, il vient sur l'histoire, je l'accepte, c'est normal, et moi, je suis heureux aussi, des fois, de lui faire des propositions visuelles, des références, et il a l'intelligence de les comprendre et de les intégrer dans son travail. Et une petite chose que je voudrais vous montrer aussi voyons où est-ce que c'est, ce que je fais aussi quelquefois qui m'aide, on parlait de technique, voilà Taipi, le roman de Melville, je vous montre un petit peu le beau travail de Benjamin sur la couverture, le projet de couverture. Taipi, en deux mots, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de deux marins, c'est le premier voyage que fait Melville à bord d'un baleinier, il s'engage très jeune, il a 20 ans. Et il va vivre cette aventure. C'est une histoire vraie, c'est la sienne, mais il va la romancer et il va la reconstituer après son premier voyage. Et il s'engage sur un baleinier et rencontre un très bon camarade. Purée, le capitaine du baleinier, c'est vraiment une buse. Il n'est pas foutu de trouver une baleine. Les engagements, une fois que c'est signé, on ne sait pas. Il faut revenir avec les cales pleines d'huile, quoi. De cachalot, et ils sentent bien que c'est le mauvais plan, la campagne elle va pas durer 6 mois, elle va durer 6 ans, ils vont pas revoir personne avant, et ils se décident de se barrer, le bateau fait relâche aux marquises, et ils connaissent quelques trucs, Melville, qui s'appelle Tom dans le roman, il se donne un personnage pour se mettre en scène, mais son nom m'échappe, lui il va garder son vrai prénom, Toby Green, lui va garder son vrai prénom dans le roman et donc il collecte quelques informations sur les marquises sur l'île principale de Nuku Hiva et ils savent que les Français sont en train de coloniser l'île, ont chassé les Anglais et les Américains, et s'installe à coups de canon, hein, 2-3 coups de canon dans le village, ça sème la panique, les quelques soldats, une poignée, hein, il faut 6 corvettes pour envahir la moitié de l'Océanie. Et donc, sur Nukaiva, il y a une tribu absolument redoutable. Ils font foutre la trouille même aux autres tribus cannibales. C'est les Taipis, c'est les féroces de chez les féroces. Il y a 3 tribus sur Nukaiva. Il y a la première tribu colonisée par les Français. Il y a les Apa sur le versant ouest et il y a les Taipis sur le versant est. C'est une île qui volcanique, un relief très jeune. Alors, vous imaginez des décors, des grands pins de montagne avec la végétation luxuriante, etc. Ça a l'air d'une sorte de paradis. Et ils disent, bah, c'est très simple, on débarque. C'est par bordée, vous savez, sur ces bateaux-là. Il y a la bordée tribord, et il y a toujours du monde à bord, mais on débarque par moitié l'équipage. Et donc, leur bordée qui débarque. Et il y a une pluie diluvienne, ils ont fait quelques provisions dans le bateau, ils se cassent. Ils disent, on va se planquer dans la jungle, un peu là-haut, là. Et puis, on va attendre qu'ils se lassent, ils ne nous trouveront pas. De toute façon, on aura tout sous la main. De quoi manger, de quoi boire. Ils se font l'idée d'un Éden là-bas. Il n'y a qu'à attraper les fruits dans les arbres, les sources coulent. Et puis ils vont se décourager, et puis ils vont nous foutre la paix, et puis on redescendra du côté des Apaak. Pas les Français qui vont nous foutre en tôle, mais les Apaak qui commercent un peu, et on arrivera bien à s'échapper sur un bateau de passage. Surtout pas prendre l'autre versant, où il y a les terribles Taipis. Donc vous imaginez bien, c'est téléphoné comme coup, évidemment. Ils débarquent complètement paumés, ils sont rincés par la pluie en l'espace de 2 heures. Les provisions qu'ils avaient dans les poches, ça devient une bouillie infâme où se mélange le tabac, le pain, tout, c'est dégueulasse. Ils sont alourdis par la pluie, ils ont des pentes comme ça à galoper, etc. Ils sont crevés au bout de 2 heures. C'est le cauchemar, il n'y a rien à bouffer. Il n'y a que de l'eau sur leurs vêtements, ils sortent leur chapeau pour boire, il n'y a pas une source, rien du tout, c'est inaccessible. Donc ça vire au cauchemar, ils descendent des précipices, ils sont obligés de les remonter, sont complètement perdus, il faut voir, c'est labyrinthique, on ne peut même plus voir le soleil, c'est tellement encaissé, enfin bref. Évidemment, ils sont découragés, ils évitent tous les sentiers, parce qu'ils n'ont qu'une seule trouille, c'est de tomber sur la mauvaise tribu indigène. Ils ont beau prendre toutes les précautions, ils finissent par se dire « tant pis, on suit un sentier ». Évidemment, ils tombent chez les Taipis, et encore une fois, rien ne se passe comme ils avaient prévu. C'est que les Taipis leur font un très bon accueil. Et là, ils vivent une expérience à la fois ethnologique et qui les remet complètement en question en tant que blancs occidentaux chrétiens. Ils débarquent dans une autre société complètement différente. Et ils sont ébranlés, quoi. Ils ne savent plus du tout s'ils ont envie de partir. Et tout ce récit, c'est est-ce qu'ils nous gardent prisonniers pour nous bouffer ? Est-ce qu'ils nous gardent prisonniers pour obtenir des renseignements sur les Français qui sont en train de les envahir ? Est-ce qu'ils nous gardent prisonniers parce qu'ils nous aiment ? Est-ce que finalement on n'est pas si mal ici ? Mais est-ce que notre fond de culture occidentale fait que dans ce qui semblerait être un paradis, avec ses cruautés aussi, mais qui sommes-nous pour juger de la cruauté des Taipis ? Quand nous-mêmes, nous avons décimé la moitié de l'Amérique du Sud, sommes en train de chasser par les Français, mais on a conquis nous aussi les Marquises en tant qu'Américains avant, à coup de canon aussi, c'est pareil. Donc, qui sommes-nous pour juger des gens que nous désignons comme des sauvages, etc. Et donc, c'est toute cette belle réflexion, et en même temps, tout un récit d'aventure, beaucoup d'humour, parce qu'ils sont démunis face à la beauté, la nudité, les tatouages, ils ont tout leur arrière-plan chrétien, etc. Et c'est vraiment un récit de comédie, et un récit d'aventure, et un récit d'amitié, et c'est de ça dont je me suis emparé. Et là, on parle d'adaptation, parce que j'ai débarrassé ce récit-là de toute la dimension historico-analytico, etc., que Melville a reconstitué après coup, quand il a vécu cette formidable voyage, et finissent par s'échapper. C'est ce qui va le lancer en tant que romancier, c'est ce premier roman, mais il a envie de bien faire. Et après, il va nourrir de tout un contexte géographique, politique, stratégique, etc. C'est assez intéressant, c'est gentiment chiant. Et moi, ce qui me plaît, et je dis j'ai le droit de le faire, c'est de dégager l'arête qui me plaît, qui est le beau fond d'aventure, d'humour, d'ironie. Et je pense qu'il fait finalement son expérience à lui de romancier aventurier, et c'est de le faire ressurgir. Et de faire apparaître en même temps la singularité de ce roman dans la biographie générale de Melville, qui après fait des romans beaucoup plus sombres, toujours des romans d'aventure, mais voilà, mais celui-là, c'est une singularité. Et puis après, c'est des parcours personnels. Taipi, je l'ai reçu quand j'avais 10 ans, c'était une très belle édition originale, j'avais un attachement physique à l'objet, le livre, c'est des choses qu'on porte en soi. Encore une fois, on veut les partager. Et c'est ce qui justifie le travail d'adaptation, et après... voilà ce que je fais aussi, voilà, comme exercice. Ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle un scène à scène. voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà, j'identifie les scènes clés du... C'est l'étape avant le scénario lui-même dialogué. Case 1, il se passe ceci. Et ensuite, je mets les dialogues des personnages comme des scénarios de cinéma que vous avez pu voir passer. Moi, je fais cet exercice du scène à scène où déjà, j'écris tout mon parcours de narration avec des petits éléments de contexte un peu historique qui sont le background que j'ai besoin d'avoir. Même si ça n'apparaîtra pas complètement comme ça, je fais déjà un premier récit. Mais c'est plus qu'un synopsis puisque déjà, on identifie des scènes. Voilà. C'est une sorte de schéma narratif, déjà. C'est relativement précis, c'est déjà un peu découpé. Il y a des petites intentions de dialogue. Voilà. Moi, c'est ma méthode de travail. Alors, je note des intentions, des petites choses, donc il faut que je me rappelle. Déjà, je commence à construire. Je sais que c'est si je vais placer là maintenant, je vais pouvoir m'en resservir là, et du coup, voilà. Après, c'est toute la petite mécanique intellectuelle, mais qu'on acquiert, qui peut s'enseigner, mais on n'a pas le temps, mais qu'on acquiert à force de travail, de répéter, de faire des erreurs, parce qu'on apprend beaucoup en commettant des erreurs aussi. Et donc voilà, donc je sais par où je veux passer, je sais mon récit, voilà, il se porte sur le contenu, mais aussi sur les réactions des personnages. Voilà, et il y a des choses auxquelles on renonce, par exemple, sur Taipi. Je me suis dit, parce que c'est tout un jeu de je te comprends, je te comprends pas. Moi, le personnage, il débarque, il parle anglais, il connaît pas un mot du langage des Taipi, mais quand même, il faut communiquer. Je me suis dit, c'est marrant quand même, si j'étais à la place, comment je peux transposer ça pour le lecteur? Alors, j'écrivais vraiment les dialogues. C'est-à-dire, Toby et Tom, ils parlent aux indigènes Taipi. Et donc j'ai pu travailler bien la comédie avec ça, ce qu'ils ne se comprennent pas, c'est très rigolo, mais il y a quand même des mots qu'ils arrivent à attraper. Je me dis, mais comment je vais rendre ça, moi? Pourtant c'est ça le truc, la comédie elle est là, le côté marrant, et je me suis dit, ben je vais écrire les dialogues, alors je fais les réponses, mais ils ne se comprennent pas, mais quand même je les écris, et après tous les dialogues des Taipi, ça va disparaître, et on va utiliser à la place des dialogues Taipi, je vais essayer de vous montrer ça en image, je ne sais pas si ça apparaîtra, uniquement... Est-ce qu'il y en a quelques images? C'est les recherches de couleurs de Benjamin. Non, on va pas voir. Je vous explique. Dans la bulle du personnage Taipi, j'ai acheté un très beau bouquin sur le tatouage indonésien et des marquises. Et j'ai isolé tous les éléments de tatouage pour en faire un alphabet. Et donc, ils vont parler avec des tatouages. Et moi, je sais très bien ce qui se cache derrière ces tatouages et vous le saurez jamais. Eh bien, l'adaptation, ça passe par là. Ça passe par un jeu, par des jeux. Et j'ai quand même écrit ces putains de dialogues. Vous ne les verrez pas apparaître. Et finalement, vous êtes placé dans la position du héros qui est confronté à un langage qui ne comprend pas. Alors là, en plus, ça me semblait justifié d'utiliser le tatouage parce qu'une grande partie du langage indonésien passe par le tatouage aussi. Il y a beaucoup de sens qui est donné au tatouage tribal. Donc voilà, ça me semblait justifié. Et donc je vais fonctionner comme ça, et à un moment je me suis dit, bon quand même, pour le lecteur, peut-être qu'il perd une dimension, peut-être qu'à la fin on mettra une page, mais c'est peut-être un peu chiant, un peu didactique, je ne sais pas, j'ai pas encore tranché, où on traduirait les dialogues, mais ça obligerait à avoir une deuxième lecture un peu emmerdante, genre je vais voir à la fin de la page, je retrouve la case, je sais pas si vraiment c'est très intéressant, c'est juste parce qu'on se dit quand même, j'ai bossé sur tous ces dialogues, on voudrait que ce soit, mais je crois pas, je pense qu'en fait on laissera comme ça. Oui. Tant pis, à vous d'imaginer tout ce qui se dit derrière, et finalement, vous vous retrouvez dans la position du héros, et finalement, moi, c'est ce que j'essaie de vous transmettre aussi, c'est ce par quoi il passe, c'est ses angoisses, et voilà. Et donc, c'est le côté absolument jouissif de l'adaptation, c'est de tout faire, tous ces petits travaux de construction intellectuelle, ces jeux, penser au lecteur, repenser à soi, penser à l'auteur, travailler avec le dessinateur. Ça fait partie de ça pour moi, le plaisir de ce travail d'adaptation. Je pense qu'on a un peu... Est-ce que vous avez des questions encore à me poser? Oui, oui, je vous en prie.
Tout à l'heure, vous avez montré la note d'intention pour Gatsby.
Oui, vous voulez la revoir?
Est-ce que c'est complété par les planches du dessinateur ou c'est d'abord vous envoyez la note d'intention qui est d'abord...
Non, c'était, là, je vous ai juste donné mon travail, c'était complété par le dessin. Hein, en fait, avec Benjamin, après... aussi, on fait, je ne sais plus, je ne retrouve pas forcément. Vous voyez cette belle édition de Taipei que j'avais, voilà. J'étais gosse, j'adore. C'est magnifique. Vous voyez, je cherche des belles illustrations du 19e siècle d'ethnologues et des grands voyageurs du 18e qui ont montré aussi, ont dessiné à l'aquarelle ces personnages. Donc il y a tout ce travail de fond qui, moi, me passionne, qui me plaît bien dans cet exercice. Bonjour. Oui, oui, bien sûr, c'est moi qui déborde. Vous avez raison de me rappeler à l'ordre. Voilà, écoutez, je ne sais pas si j'ai été très cohérent, très complet, très intéressant. J'étais heureux de vous rencontrer.
Merci.
Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir en retirer de tout ça.
Il y a un ensemble technique et...
D'accord.
Bon. Est-ce que, juste un petit détail,
oui.
C'est la même chose que le séquencier.
Alors, excusez-moi, pardon, j'ai pas bien entendu.
Vous avez utilisé au début du
oui.
Cours, le séquencier pour parler
oui.
Après le synopsis.
Oui.
Et après, vous avez parlé de scénario scène par scène et je me demandais si c'était le même.
Non, c'est encore différent. Le scène à scène, c'est comme une sorte de synopsis qui identifierait les différents blocs de l'histoire. Les séquenciers, on est vraiment dans un récit visuel où déjà on identifie la scène en tant qu'élément de décor dans lequel va se dérouler l'action. Voilà. Et pour moi, le scène à scène, c'est plus général. C'est comme une sorte de mini-chapitrage à l'intérieur de l'histoire. C'est les éléments, les blocs de narration par lesquels je veux passer.